Donc, merci d'être fidèle à cette journée donc, qui continue. Et je vais passer la parole à Dorothée Humbert, qui vient de Columbus et que je remercie de ce long voyage pour nous parler du paysage. En fait, ça ne vous aura pas échappé. Vichy, c'est aussi le retour à la terre. Mais pour l'instant, il n'a pas été tellement question de paysage. Donc, merci Dorothée de nous instruire de ce point de vue-là.
Bonjour, merci beaucoup Jean-Louis, merci au collège de m'inviter, de me faire participer à ce colloque qui est très très intéressant. Je suis un peu à l'extérieur du côté géographique vu de ma position au milieu de l'Ohio, mais en plus, puisque je parle de paysage. Alors, cette intervention examine les enjeux paysagistes à travers le contexte professionnel du paysagisme en Europe, entre autres les échanges d'idées sur la nature du paysagisme, qu'est-ce que c'est, le jardin, la nature, la relation à l'architecture et à l'urbanisme, et sur ces thèmes et échelles techniques, planification, autoroute, protection du paysage, tourisme et reconstruction. Alors, au début des années 40, les paysagistes français, ils sont très peu nombreux, mais ils sont très peu nombreux en Europe aussi, les Belges, les Italiens en particulier, maintiennent des contacts avec leurs collègues allemands, ce qui pourrait tomber sous le sens. Mais il faut avoir fait ces échanges dans une perspective un peu élargie, puisque la fin des années 30 est un moment pivot pour la discipline paysagiste, s'il y a discipline, puisqu'il n'y a peut-être pas de discipline d'architecture non plus, qui est concernée par des thèmes et des courants d'idées qui ont vu le jour bien avant le nazisme, le fascisme ou même Vichy. Qu'il s'agisse de tourisme, de sport, de l'exploitation des forêts, de planification et même de tracés routiers, ces questions de paysage naturel et aménagé remontent à la Troisième République ou Weimar et traversent les frontières. On va des Parkways américains à l'Autobahn allemande et vice-versa. En étudiant les travaux et les écrits des paysagistes, architectes paysagistes, jardiniers urbanistes, urbanistes paysagistes ou ingénieurs paysagistes, donc vous voyez dans le titre, il y a beaucoup d'hybridité, on peut remarquer une fois de plus que la flexibilité d'échelle du jardin de la ville à la région, l'ubiguïté, tout est paysage, et l'ambiguïté, paysage naturel ou paysage projeté, rendent paysage et paysagisme à la fois inévitable et neutre. Et paradoxalement, le paysage, dans sa neutralité, est investi de symbolisme et politisé pour devenir un superbe outil de propagande, comme la forêt, la terre ou le paysage de l'Autobahn en Allemagne. Réciproquement, le paysagiste sous l'occupation, le nazisme ou le fascisme, n'ayant tenu qu'un rôle d'aménageur, donc tout à fait sans problème, d'améliorateur ou de conservateur de la nature, passera dans la majorité des cas à travers les gouttes au moment de la libération, comme on le verra au congrès de 1948 à Londres. Donc sous Vichy, la rhétorique de la reconstruction et de la révolution nationale s'appuie sur les valeurs sûres du retour à la terre, de l'artisanat et de la santé physique, avec la vie au grand air et les sports. Hébert avait déjà trouvé un client chez le marquis de Polignac à Reims, où vous voyez le collège d'athlètes ici avec ces grands garçons en slip qui se battent sur la glace de la piscine, pour prouver que tout va bien et on est très fort. Et ça ira mieux aux Jeux Olympiques surtout. André Véra reprend exactement les mêmes arguments qu'il avait lancés au début du siècle pour un style régulier, contrairement au style paysager anglo-chinois ou étranger, quoi, dans sa série d'articles pour la revue Urbanisme, mais s'appuyant désormais sur plusieurs concepts de Vichy, plus ou moins remaniés. Dans le Manifeste pour le renouveau de l'art français, il exclame « La révolution nationale non seulement donne l'occasion, mais impose la nécessité de la modernité. » Et dans ce cas-là, une modernité tout à fait traditionnelle. « La France doit faire preuve d'une nouvelle jeunesse. Le nouveau style sera constitué d'expressions morales. Le maréchal ne nous a-t-il pas conviés à un redressement moral » demande-t-il. Exprimant l'ordre, vous exprimerez la santé dans le moment même où le gouvernement se préoccupe d'améliorer la race et vous demande d'établir stades et terrains de jeu. Et finalement, et ça c'est là où le style régulier revient à l'attaque, tout nouveau jardin paysager, donc pas régulier, doit être regardé, surtout s'il est public, comme un acte de sabotage à l'endroit de la révolution nationale. Donc sous Vichy, il y a une appropriation idéologique de la nature, de la montagne, de la campagne et de la forêt, comme étant authentique, contrairement à la ville viciée. Ainsi, dans la forêt de Troncet, au centre de la France, on consacre un chêne plus que bicentenaire en chêne Maréchal Pétain, qui sera d'ailleurs rebaptisé, sur la photo de droite, en chêne de la résistance à la libération, parce que les arbres ont beau dos et il suffit de changer la plaque. Alors, si on regarde la revue Urbanisme, on peut déceler des thèmes, comme celui de la forêt, Aménagement, exploitation, reboisement, tourisme, relation à la ville. Ça, c'était des issues de 1946. Mais aussi des thèmes qui sont pérennes au paysagisme et à la ville. Le rôle des arbres et des espaces verts dans la ville, de manière qualitative et quantitative, avec les travaux de Pasquier, cet article de 1939, et de la relation ville-banlieue-campagne et du cas particulier la ceinture verte de Paris entre 1943 et l'autre article en 1951 qui revient à la charge. Et aussi la spécialisation des espaces, les terrains de jeu, les terrains de sport, les jardins publics et les parcs, les cimetières, etc. Et de nouveau les articles de Pasquier en 1939 et Joffé en 1952. Et finalement, au centre de tout ça, il y a les routes pour relier les villes, pour traverser les paysages en les mettant en valeur sans les abîmer, comment planter les routes, non pas avec des arbres d'alignement comme les routes nationales, mais en fait avec des arbres qui appartiennent au paysage environnant et qui créent des perspectives sur le paysage, des plantations liées au paysage, avec des arbres à fleurs, des arbres de la région, des arbres à fruits. Alors il y a deux tendances qu'on peut relever. D'une part, on peut relever dans ces thèmes une expansion du champ d'intervention du paysagiste, allant du jardin à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et de l'autre, un désir de spécialisation des espaces verts qui nécessite une expertise professionnelle. Le spécialiste de paysage n'est pas un ingénieur, comme à l'époque d'Haussmann, annonce Pasquier, mais les jardiniers sont des gens avec lesquels il faut compter, il explique. Alors, où en sont les paysagistes, pendant, après, avant la guerre, et qui sont-ils ? Alors, dans les années 20 et 30, il y a une vague de création d'associations professionnelles. L'Allemagne a une petite longueur d'avance, où le peu de paysagistes qu'il y a, les architectes de jardin, etc., se rencontrent et discutent sur cette question du titre d'architecte de jardin. En se nommant architecte de jardin plutôt que paysagiste ou jardiniste, ils annoncent qu'ils se rapprochent de l'architecture et de l'urbanisme. Donc ce ne sont pas des gens qui sont issus de l'horticulture particulièrement, mais ce sont des gens qui ont un métier d'art et qui ont une profession qui est reconnue, ou plus reconnue que celle de paysagiste, en fait. Ils discutent de la nature du travail de paysagiste, la nécessité de créer des études spécialisées, donc de nouveau l'apanage de la profession. Et aussi, il y a cette inquiétude vis-à-vis de l'emprise des architectes, parce que tout le monde peut faire des jardins, en fait, on le sait très bien, ou du paysage. Et en plus, et de l'autre côté, il y a cette opportunité de l'urbanisme, ce lien avec l'art civique, comme l'appelait Louis van der Swelmen, le city planning en Amérique, etc. Donc il y a vraiment des liens qui peuvent se créer. Donc d'un côté, il y a une spécialisation, de l'autre côté, il y a une espèce d'expansion qui se passe. Et ils se rencontrent à ces expositions internationales, à Bruxelles en 1935, mais le premier congrès international des architectes de jardin se tient à Paris en 1937, au moment de l'exposition des arts et des techniques dans la vie moderne. Les jardins sont placés sous la direction de Jacques Grébert. Sur la photo de gauche, vous avez les jardins qui étaient créés à l'exposition de 1925 des arts décoratifs et industriels modernes. Et à droite, vous avez des jardins assez typiques. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus aventureux, mais de l'exposition de 37, donc une espèce de corbeille de fleurs, pas très novateur, dirons-nous. C'est la même époque où il y a le pavillon des Temples Nouveaux, la section rurale de l'exposition avec projet de Le Corbusier pour la ferme radieuse et le village coopératif, et aussi le parc Kellermann qui est fait sur la ceinture de Paris, sur les fortifications, le bastion Kellermann par Jacques Grébert qui commence en 1937 et qui se termine en 1942. Donc ce congrès est organisé par la Société française des architectes de jardins, qui a été créée en 1930 par Ferdinand Duprat. Les participants sont Achille Duchesne, Jacques Grébert, André Véra, Albert Audias et Henri Pasquier, qui sont les paysagistes français. Ils invitent leurs amis belges, Jules Buissin, René Pécher, Jean-Canel Klaas, les Anglais, Christopher Tunnard, H.F. Clarke, les Suédois, les Danois, les Italiens, Pietro Porcinai et Maria Teresa Parpagliolo, qu'on reverra au fil des années, les Suisses, et les Allemands avec les personnages de Alvin Seifert, Otto Valentin et Hermann Mattern. C'est un moment charnière pour la profession, pour les années de création. Et Achille Duchesne, qui est un paysagiste, un créateur de jardins très connu, vous connaissez probablement ses restaurations au château de Vaux-le-Vicomte, se lamente, Duchesne se lamente en lisant « L'art des jardins se meurt », l'art des jardins comme je les ai connus moi, et se tourne tout du moins en théorie sur sa planche à dessin pour travailler non plus sur les jardins comme ce que vous voyez en haut de page, mais sur les jardins sportifs, productifs, pour un public de masse. Ici, vous avez en bas un stade nautique avec des balais aquatiques, des plongeons, mais en même temps un vélodrome qui court autour. Donc, tout est au même endroit et on est sûr d'avoir un certain public. Il demande aussi que des spécialistes, paysagistes, jardinistes soient chargés de l'étude et de la réalisation des espaces verts des villes et qu'il y ait une spécialisation des espaces verts. Donc ça aussi, c'est intéressant. De nouveau, c'est de marquer le territoire du paysage et de reprendre ça aux architectes d'une certaine manière et en même temps de s'étendre vers l'urbanisme. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi, à l'exposition de 37, il y a aussi une superposition d'échelles. Il y a encore des jardins. Il y a Pécher qui travaille sur le jardin d'hiver du pavillon de Belgique avec Van de Velde. Mais il y a aussi les autoroutes, justement, d'Alvin Seifert, qui depuis 1933 est un des paysagistes attitrés du nazisme sous Fritz Todt. À cette même exposition et congrès se rencontrent Tunnard et Canel, et leur rencontre un an plus tard mènera à la publication du livre de Christopher Tunnard, Gardens in a Modern Landscape, qui devient un ouvrage de référence du paysagisme moderne, qui reste vraiment l'ouvrage de référence jusqu'à la publication du livre de Garrett Egbo en 1950, Landscape for Living. Et à droite, nous avons le manifeste de l'Association internationale des architectes jardinistes modernistes, qui aussi apparaît en 1938. Alors cette association est lancée par Christopher Tunnard et Jean Canel Class, un Anglais ou Canadien-Anglais et un Belge, en 38, et c'est vraiment une apologie du jardin fonctionnel et cherche à créer un lien entre le jardin et l'urbanisme. C'est une association qui se dit calquée sur les congrès internationaux d'architecture moderne, sur les SIAM. À gauche, vous avez une image de la maison Canel avec Canel au centre. À droite, vous avez Christopher Tunnard qui présente à la télévision avec la BBC comment dessiner, comment projeter un jardin moderne, un jardin donc asymétrique, fonctionnel, etc. Donc le jardin est tout à fait un laboratoire de recherche, il est fonctionnel, il est en équivalence avec la maison moderne. Et un petit détour par là, Canel fait ses études à la Cambre, qui est censé être le Bauhaus belge, et vous pouvez voir dans l'organigramme de la pédagogie de l'école que l'architecture des jardins est liée en fait à l'urbanisme et pas directement à l'architecture. Donc il y a cette espèce de charnière qui se passe entre l'architecture et les jardins qui passe par l'urbanisme. Donc c'est quelque chose qui est très important pour Canel et qui continue d'essayer de vendre. Il essaye de se placer en relation avec un des champions de l'architecture moderne, donc il engage Le Corbusier pour lui dessiner une maison, il a à peine 20 ans, ça ne mène à rien, ça se passe assez mal, mais il en reste quelques dessins. Le Corbusier n'écoute pas du tout ce que lui demande Canel d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Et il finit par se faire une maison par un architecte belge qui s'appelle Louis-Armand de Koninck. Et là, il peut présenter ses travaux vraiment en équivalence avec la maison. Et pour ça, il se sert de l'axonométrie, qui est une méthode de représentation qui se prête pas particulièrement bien à la représentation du paysage, mais il s'en sert justement pour démontrer cette espèce de relation entre intérieur et extérieur et cette composition du jardin de manière fonctionnelle et rationnelle. Tunnard, de son côté, fait partie du groupe Mars, qui est la partie anglaise des SIAM, et travaille avec l'architecte moderne comme Serge Tchermaïev et Raymond McGrath. Il travaille entre autres sur cette maison de Bentley Wood, où de nouveau, cette idée de la vie au plein air, l'extension de la maison sur le paysage, etc. Et continue à travers une série d'expositions et d'articles et ce livre qu'il publie. Il s'intéresse aussi à la question de la relation de la ville à la campagne et se place en opposition avec la Garden City Movement d'Ebenezer Howard, qu'il critique pour son morcellement des espaces et qu'il voit comme n'étant pas assez dense. Donc il propose ces espèces de villes dortoirs dans la campagne qui vont résoudre tous les problèmes de la banlieue de Londres. Dans leur manifeste de 38, qui est en français, anglais, allemand, il n'y a pas de néerlandais, bien que ce soit belge, dans la version d'automne, il n'y a pas d'allemand. Ils expliquent qu'il y a 5 buts qui parlent de la conception rationnelle des jardins, la relation entre art des jardins, urbanisme et architecture, la fonction crée la forme, il n'y a pas beaucoup de citations. Géométrie et asymétrie sont essentielles et l'imitation servile de la nature est incompatible avec la création artistique. Donc là, c'est de nouveau le jardin pas architectural, mais composé de manière rationnelle. Et il parle aussi de la dimension sociale et morale de la profession, de la discipline. Par contre, ils invitent tous les membres appartenant au groupe d'artistes, même les architectes, les urbanistes, etc. Ils sont très œcuméniques d'une certaine manière et se placent comme experts, mais en même temps étant les interprètes de plusieurs disciplines, étant la charnière entre ces disciplines. Au moment du deuxième congrès, en 1938, ça se passe en Allemagne et c'est Alvin Seifert qui invite ses confrères et consoeurs au deuxième congrès qui se trouve à Berlin et Essen et qui fait partie du 12e congrès d'horticulture qui est placé sous la houlette de Walter Darré, qui est le leader de la paysannerie allemande et le ministre de l'Agriculture. Thonnard refuse d'y participer au congrès à l'exposition en citant que, sur la lettre de droite, que la Chambre des Beaux-Arts a eu une action complètement délétère sur l'art contemporain en Allemagne et qu'étant un membre du groupe Mars, il n'est pas question qu'il expose ses travaux dans un pareil contexte. Beaucoup d'autres acceptent l'invitation de Seifert. Parmi les présents se trouvent plusieurs des participants du congrès de 37, dont Achille Duchesne, Pécher, Canel Klass, Porcinaï, Parpagliolo, les Suédois, Hermann Matern et Otto Valentin, évidemment, puisqu'ils sont allemands. Et Seifert, paysagiste en chef du projet d'Autobahn, profite du congrès pour présenter ses travaux in situ avec une visite guidée de l'autoroute entre Berlin et Essen, où sont exposés les travaux des paysagistes, en passant par Hanovre, pour visiter les jardins de Herrenhausen. Donc c'est une démonstration des principes d'intégration du tracé de la Reichsautobahn au paysage, mariant technologie et Heimatschutz, paysages contemporains avec les travaux qui sont exposés et aussi jardin historique avec Herrenhausen. Donc Seifert lui-même est engagé par Fritz Todt et il est nommé inspecteur en chef des routes allemandes par Fritz Todt qui est nommé inspecteur en chef des routes allemandes par Hitler en 1933 et sera responsable entre autres du mur atlantique et de la ligne Siegfried. Todt suit les désirs du Führer, cherchant à créer, dit-il, une route dont le tracé ne laisse pas de cicatrices sur la nature. Ainsi, il charge Seifert et les autres paysagistes du manteau de Landschaftsanwalt, ou avocat du paysage, et d'assurer l'intégration du ruban de béton dans la topographie et paysage environnement. Donc, cette question du titre professionnel revient aussi en Allemagne, et cette question aussi des paysagistes qui sont protecteurs de la nature. Donc, ils se retirent du côté dessin et du côté projet et sont plutôt des conservateurs, des protecteurs, des avocats du paysage. Et en 1934, la fameuse Chambre des Beaux-Arts interdit le titre d'architecte de jardin ou d'architecte paysagiste sous prétexte que la profession traite de culture vivante et non pas de culture civilisatrice, qui serait l'architecture et l'urbanisme. Donc, à la fois, le travail des paysagistes offre aux nazis l'opportunité de renforcer l'idéologie du terroir, une image romantique de l'identité nationale nordique, avec les travaux d'autoroute et, bien sûr, la colonisation intérieure de la Pologne. Il y aura environ 25 Landschaftsanwälte qui travailleront sous Seifert, y compris Hubotter, Hermann Mattern et Camillo Schneider. Il y a une femme qui s'appelle Hertha Hammerbacher, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler des femmes généralement à ce moment-là, qui est l'épouse de Hermann Mattern, qui est aussi paysagiste, qui ne peut pas travailler aux travaux d'autoroute parce qu'elle est en tant que femme, mais fera néanmoins partie de l'équipe travaillant sur les villes et les plantations à caractère allemand sur les territoires polonais annexés, la fameuse colonisation intérieure. En 1943, Seifert publie son livre qui pourrait plus ou moins être traduit par l'époque vitale, je ne sais pas, Jean-Louis, tu peux peut-être me suggérer une traduction, où il cite l'influence... À l'ère du vivant, voilà. L'époque vitale, moi, on m'avait dit. Et il parle de l'influence que Heimat Schutz, et particulièrement Paul Schutz et Naumburg, sur sa conception de Bodenständig, qui voudrait dire lié au terroir indigène. Donc les autoroutes sont placées dans ce paysage, les plantes doivent appartenir au paysage, elles doivent être rustiques, adaptables, se mariant aux environs, évidemment, allemandes. Les épicéas bleus, par exemple, font tache, ce que reprochait Vera aussi avec les cèdres du Liban quand il regardait la terrasse de Saint-Germain, par exemple. Mais vous voyez sur la page de gauche, c'est le profil initial des autoroutes avant qu'il y ait cette idée de courbe clothoïde qui est proche de la nature, particulièrement dans les ondulations de la région d'Allemagne centrale. La sinuosité, déclare Seifert, est en opposition directe avec la ligne droite, considérée comme latine et artificielle et qu'on ne retrouve pas dans la nature. Le premier schéma que vous voyez à gauche, qui avait des haies le long des voies et un profil beaucoup plus élevé, beaucoup plus surélevé par rapport au reste du site, est plus lié au tracé de chemin de fer que l'autobahn que développera Seifert. Donc l'autoroute fait partie intégrante de l'ensemble paysager naturel. Elle transforme le pays décrit comme un immense parc et il parle aussi de la question de sécurité pour ce qui est des talus les talus étant bas, on ne sort pas de l'autoroute en tombant, mais en plus la sinuosité crée un espèce d'effet d'alerte chez le conducteur qui l'empêche de s'endormir et donc n'aura pas d'accident. Donc cette idée de tension, Grundspannung. C'est évidemment un outil de propagande pour le Reich, bien que le projet remonte à la République de Weimar, en fait, avec le projet de voie rapide entre les villes hanséatiques Francfort et Bâle, la Hafraba. L'ouvrage de... Alors là, on voit Fritz Todt à droite et la carte des segments qui ont été réalisés en autobahn. Et en bas, le profil, le tracé de la route alpine allemande, qui était un des fleurons de la propagande, justement, de ce projet. Hans Pflug propose en 1941, sous le titre « Les autostrades de l'Allemagne à Bruxelles », de Tyska Riksbilvägen à Stockholm, et aussi en Espagne, « As autostradas do Reich ». Donc, c'est vraiment un effort concerté de présenter ces travaux comme étant quelque chose de fantastique et qui est complètement... développé par le Reich. En plus de ces ouvrages parus en Belgique, Espagne et Suède, il y a plusieurs paysagistes comme Henri Pasquier en France et Pietro Porcinaille et Maria Teresa Parpaglione en Italie qui vantent les travaux de Todt et Seifert. Alors, dans ces ouvrages, ils vous présentent cette technologie de pointe en relation avec le paysage sans fin et sans de toujours, en fait, le paysage, vraiment, le beau paysage travaillé par l'Allemagne, etc. Les Alpes, tous ces idéaux de nature qu'on retrouve dans cette propagande. Ici, il y a aussi la possibilité, les talus non sont seulement une question de sécurité, on ne sort pas de l'autoroute en se cassant la figure, mais en fait, ça vous permet de sortir à tout moment, comme ça permet aux chars militaires probablement de sortir à tout moment et éviter les attaques aériennes, mais ça vous permet de sortir à tout moment pour prendre un pique-nique le long de la route et admirer le travail de l'Allemagne. Et à droite, vous avez le préposé de la station de ravitaillement qui vous renseigne, nous propose des obligeants services. Et là, vous voyez, pendant que les autos filent, le paysan continue, comme par le passé, à labourer paisiblement son champ. En même temps, il y a tous ces camps de travailleurs et cette idée d'avoir un projet culturel en même temps où on peut... j'ai une note de Jean-Louis, là, c'est bizarre. Bref. Ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement un modèle qui commence avant le nazisme, mais en fait, c'est un modèle qui est inspiré aussi d'un modèle américain. Donc, cette idée de présenter le paysage comme une façon d'inventer en fait, l'histoire d'un pays à travers la nature, c'est quelque chose qui est emprunté à la Blue Ridge Parkway et les parkways de Westchester. Apparemment, Fritz Todt fait traduire un ouvrage de l'USDA, US Department of Agriculture, sur le roadside improvement, sur les aménagements routiers, parce qu'il est très intéressé par ces projets. Et on dit qu'en fait, il a été influencé par la Blue Ridge Parkway, les parkways de Westchester, mais en même temps, une fois que les projets d'autobahn ont été réalisés, ça s'est reparti en Amérique et ça a influencé les dessins d'autoroute. Donc, cette idée d'idéal pastoral... Le National Park Service surveille la construction du Blue Ridge Parkway, qui invente en fait un paysage pré-industriel. Ils vont jusqu'au point de créer des vues Quand il y a des cabanes qui ne sont pas tout à fait comme ils veulent, ils déplacent les habitants, ils déplacent, ils reconstruisent. Donc, ils réinventent en fait un paysage pour avoir cette espèce d'idée de la route qui est en appartenance à la nature et une nature pré-industrielle. Alors, comme Seyfert, Henri Pasquier conseille, ça c'est un diagramme qu'il propose en 1939 sur la façon de planter les autoroutes et les routes. Il conseille d'employer des essences indigènes qui ne jureront pas dans le paysage et d'éviter les essences exotiques qui accentueraient le caractère artificiel de la création. Que nos beaux arbres indigènes, chênes, peupliers, bouleaux, hêtres, châtaigniers, relient le chemin des hommes à la nature environnante. Sur de nouveau cette espèce d'idée de projet, de grand projet d'autoroute, et en même temps, on essaye de vanter le caractère immuable de la nature autour et que c'est vraiment cette question d'appartenance. Cependant, il ne cite pas Seyfert, qu'il a rencontré au congrès de 1939, mais Fritz Todt, l'inspecteur en chef des autoroutes allemandes, exprimant qu'une route est une œuvre d'art dans la nature, qui ne doit pas être conçue comme dans un esprit de bureaucratisme technique, mais se combiner harmonieusement dans le paysage. Alors, il écrit cet article des avocats du paysage, qui est très intéressant, parce qu'il en prête directement le titre de paysagiste nazi pour saisir l'occasion d'intervenir sur le territoire à grande échelle. Donc ça, ça lui permet de faire ce transfert d'échelle du jardin au territoire. Et à ce moment-là, il nous parle du pays et du paysage, donc de parler du paysage comme d'une question de caractéristiques géographiques qui étaient maniées par l'homme, et cette espèce de coïncidence des deux l'amène à proposer les travaux du paysagiste pour la protection du site, l'aménagement du site et la reconstitution du paysage. Donc il décrit le paysagiste aura à faire la preuve de son talent, de la maîtrise de son art, et c'est tout l'art de l'avocat du paysage. L'avocat du paysage est un homme de la nature, au sens du 18e, de formation si spéciale, reprenant la tradition, au sens large de l'entend M. Vera. Il cite Morel, Carmontel, Pückler, Muscao, et il décrit leur précepte qui était erroné pour la maison, donc le style paysager, pas pour la maison, mais pour la grande échelle, ça marche très bien. Ils sont parfaitement sentis pour l'aménagement des paysages à grande échelle de nos régions naturelles. Il écrit aussi « Il nous faut profiter des circonstances présentes et c'est là où il y a des recoupements, éviter que la paix revenue ne revienne avec elle les dégâts causés au paysage. Il faut planifier, il faut prévoir les industries qui s'accroissent, l'accroissement des villes, etc. » Il y a des recoupements avec ce qui se passe au nord, avec la Belgique et le commissariat à la restauration du pays. Ici, il y a la couverture de construction qui est une revue qui est très, très contrôlée, qui est plus ou moins la voix du commissariat à la restauration du pays, sous la direction de Pierre-Louis Flouquet, ou en tout cas, il écrit beaucoup. Et dans cette section d'urbanisme de la restauration, du commissariat à la restauration du pays, qui est dirigée par un homme, Raphaël Verwilken, qui est un urbaniste, dont le frère est à la tête du... Charles Verwilken est à la tête du commissariat. Il emploie notre ami Canel, qui avait lancé l'association des architectes jardinistes modernistes et qui maintenant va faire une série de cimetières et de projets de squares et d'alignements dans les villes pour la reconstruction belge. C'est un outil de contrôle justement du commissariat. Il présente des projets de planologie, des projets de notre ami Gaston Bardet pour les centres ruraux, les villages-centres. Bardet enseignera par la suite à Bruxelles d'ailleurs. Il y a beaucoup de projets de reconstruction de villes et des espaces verts qui sont revus et des contre-propositions qui sont faites par Canel. Donc ça, c'est le passage du... Il n'y a pas beaucoup de jardins qui se font, quoi qu'il y en a encore, pour des gens pas très bien. Mais il y a beaucoup de projets pour les cimetières, pour les plaines de jeu, pour les alignements, des projets assez théoriques. Donc, Pasquier parle de l'avocat du paysage pour exprimer le caractère d'une région française par le tracé d'une route, sa décoration, sa plantation. Et il donne l'exemple de la construction d'un réseau d'autoroutes dans un grand pays voisin. De nouveau, il ne cite pas l'Allemagne, mais enfin, c'est quand même assez clair. Où à côté de chaque ingénieur travaille un avocat du paysage. Il veille à ce que les plantes soient choisies parmi celles qui sont acclimatées dans la région et correspondent aux conditions du sol et du climat. C'est lui qui sauve la flore, c'est lui qui aménage les vues, c'est lui qui place les fabriques de ce gigantesque parc. En fait, il faut faire du territoire un parc plus ou moins qui va du 18e au 20e siècle. Il opère un raccourci entre les deux périodes. Mais aussi, il demande qu'il y ait des moyens juridiques puissants et rapides afin qu'il puisse de concert mener à bien cette œuvre salutaire et indisputable qui dotera la maison France d'une atmosphère de joie dans la paix retrouvée. Bon, Alors, pour conclure, la période de l'avant-guerre est marquée par un désir d'afficher une modernité à travers un langage architectural, avec le jardin soi-disant fonctionnel, en relation étroite avec la maison moderne et l'Association internationale des architectes de jardins modernistes. Canet, Letunard lancent des projets, se servent des revues comme Bâtir la Cité ou The Architectural Review pour rendre visible leur profession aux yeux des architectes et urbanistes, ainsi qu'aux futurs clients d'architectes. L'Association internationale des architectes jardinistes modernistes offre un schéma de la profession, en fait, qu'elle pourrait devenir, dans le but non seulement de réunir des membres, mais aussi d'étendre la perception du champ de travail du paysagiste. Donc, ce n'est plus uniquement des jardins, c'est des jardins dans la ville, c'est la ville, et c'est plus tard le territoire. Pendant la guerre et l'occupation, quand les jardins se font plus rares, les paysagistes profitent de cette période pour marquer leur territoire à plus grande échelle. On a l'urbanisme et les espaces verts, la forêt et urbanisme, planologie et verduration, ça c'est les termes belges. Donc cette espèce de connexion hybride entre jardin et grande échelle. Avec l'occupation et un ralentissement de la commande privée, certains paysagistes comme Pasquier ou Canel et critiques comme André Véra voient l'opportunité de la reconstruction et en particulier d'une reconstruction autoritaire comme une occasion à saisir pour établir une présence à de multiples échelles. Urbaniser, c'est gouverner, déclare Verwilgen, et les autres suivent dans la même lignée. Dans ces années noires et vertes, on retrouve aussi l'ébauche de la profession d'après-guerre, mais c'est aussi l'ambiguïté d'une profession liée à la conception, au projet, donc qui serait visible, et à la fois portant le manteau protecteur de la nature. Pasquier souligne ce paradoxe quand il conseille de planter les bordures d'autoroute avec des essences indigènes afin de minimiser le caractère artificiel de la route et de le relier à la nature environnante. Qu'est-ce que la route, si ce n'est au paysage, ce que l'allée est au jardin ? La trace humaine nécessaire à la possession rationnelle de la nature. Mais c'est peut-être dans ce paradoxe que se présente l'occasion pour les paysagistes d'assembler les deux échelles de leur profession et de lier le jardin à la nation. Et ici, on a une page de la revue Domus où Porcina y répond à Gio Ponti sur la Campagna per il Verde et il présente la nation entière d'être un jardin. Que les routes soient plantées en créant de véritables éléments de paysage, donc reprenant les théories de Seyfert. Et en plus, il montre une autoroute de Seyfert qui mène en Pologne, donc les territoires annexés. Pour ce qui est de la suite, les paysagistes se retrouvent en 1939, quelques-uns, à Zurich d'abord, et en 1948, après la guerre, on se retrouve tous à Londres et à Oxford, où se crée the International Federation of Landscape Architects. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques sursauts. Pécher, qui lui-même passera en tribunal militaire, il passe quelques temps en Allemagne dans des camps de prisonniers, soi-disant sort des camps de prisonniers pour travailler sur les autoroutes avec Seyfert, et est interrogé à la fin de la guerre, mais rien ne se passe. Lui-même critique le fait qu'on puisse inviter les Autrichiens et les Allemands au Congrès international à Londres en 1948 et dit que non, ce n'est pas possible, c'est un ami, Seyfert est un ami, mais ce n'est pas possible de le voir dans un contexte pareil. Par contre, Porcinaï et Parpagliolo, qui étaient tout à fait des supporters, des fans de Seyfert et compagnie et qui viennent d'Italie, sont tout à fait acceptés. Canel sera là, il repartira au Congo en 50, peut-être aussi inquiété pour ses activités au commissariat de la restauration du pays, mais plus ou moins les choses continuent de la même façon. Merci.